Bienvenue dans l'After Coupe du Monde, votre rendez-vous sur RMC avec 48 épisodes pour tout savoir des 48 nations de la Coupe du Monde à partir du 11 juin. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la Suède.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de l'After Coupe du Monde RMC Radio officiel. Vous saurez tout et vous pourrez tout suivre sur nos antennes, sur nos plateformes, After Foot TV, YouTube et les différentes plateformes aussi pour retrouver les podcasts. Et aujourd'hui, on vous parle de la Suède. C'est le retour pour la nation suédoise après avoir manqué la Coupe du Monde 2022, une équipe qualifiée in extremis lors d'un barrage. Tonitruant, magnifique face à la Pologne et cette victoire 3-2 à Stockholm, à Solna pour être précis. Et avec nous en studio, on accueille un spécialiste du football suédois. C'est Arnaud Janus du site et de la plateforme Nordisk Football. Salut Arnaud.
Salut Arnaud et salut à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. On peut vous retrouver sur Twitter notamment. Vous avez un compte dédié pour tous les championnats scandinaves, mais pas que, parce qu'on rappelle que la Finlande, par exemple, ça ne fait pas partie de la Scandinavie.
Non, tout à fait. On a les pays scandinaves et puis la Finlande, l'Islande, le Groenland, les îles Féroé, qui, bon, voilà, beaucoup de tous les pays nordiques.
Toujours des déplacements mythiques d'aller lors des éliminatoires. On a vu la France jouer face aux îles Féroé, notamment l'Islande aussi récemment. Mais nous, on va parler de la Suède puisque, eh bien, c'est le retour pour les Suédois. La Coupe du Monde, c'est à suivre sur RMC, radio officielle du 11 juin au 19 juillet. Je vous le disais, c'est le retour à la Coupe du Monde pour les Suédois. Les Blågult, est-ce que je le dis bien? Les bleus et jaunes.
Je crois qu'on s'approche plus de Blåjult, quelque chose comme ça.
Bah oui, je vais dire hey, qui veut dire bonjour en suédois évidemment. Tac, merci. Blåjult, 38e nation au classement FIFA. La Suède qui a une grande tradition parmi les nations européennes. C'est une des nations qui a le plus participé à cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu aux abonnés absents, le pays suédois, sur ces dernières années. Pas là en 2022, présent en 2018. Mais 2014-2010, il n'y avait personne, Arnaud.
C'est ça, il y a eu un petit creux entre 2006 et 2018. Après, c'est quand même une nation qui, par exemple, par rapport aux voisins norvégiens, est un peu plus présente dans les compétitions, a un peu plus l'habitude d'y figurer récemment. Donc, il y a un peu plus d'expérience que pour la Norvège sur cette génération-là.
Est-ce qu'elle court après un glorieux passé? On a vu une finale en 1958, une demi-finale en 1994, pour une Coupe du Monde déjà aux États-Unis. Peut-être que ça va porter bonheur. Mais est-ce qu'elle court après son glorieux passé, notamment celui des années 90 aussi, hein? On avait connu une équipe très forte à l'Euro 92 aussi.
Alors, je ne sais pas si elle court après son glorieux passé. Je dirais qu'elle essaye surtout de se renouveler aussi. Il y a une génération talentueuse, des joueurs qui jouent maintenant dans les grands championnats. On en a beaucoup en Première Ligue, par exemple. Et je pense qu'il y a eu un certain désamour justement avec le creux sans grande compétition, beaucoup de déceptions. Donc là, le barrage remporté, comme tu l'as dit, dans des conditions vraiment mythiques, a relancé l'engouement. Et on est vraiment très, très impatient de voir la Suède à la Coupe du Monde.
Parce que pour qu'on comprenne bien un petit peu qu'est-ce qui marche fort comme sport en Suède, j'ai couvert le handball, on sait aussi que le handball est très populaire.
Oui, alors il y a évidemment les sports de glisse comme le hockey sur glace qui fonctionnent bien, le handball. Mais c'est un pays de foot, hein. C'est parfois sous-estimé, mais c'est un vrai pays de foot. Il y a de plus en plus de monde dans les stades. Les stades sont pour la plupart très bien. L'arène de l'équipe nationale, c'est la Strawberry Arena maintenant, qui est le stade de l'AIK Solna, à plus de 50 000 places. C'est un stade ultra moderne qui est capable de se fermer, dont le toit peut être fermé. Donc ça répond à toutes les conditions qui doivent être réunies en Suède pour jouer au football. Et voilà, il y a de plus en plus de bons terrains hybrides, voilà, pour faire face aux aléas climatiques qui vont avec ces pays-là. Donc vraiment, il y a un renouvellement, ouais, je dirais. C'est vraiment ça le mot.
Et est-ce que ce parcours chaotique en qualification, avec notamment cette victoire en barrage, mais la Suède doit son salut par avoir gagné sa poule en Ligue des Nations. dans Division C, c'est-à-dire qu'ils étaient relégués et c'est grâce à ça qu'ils ont pu avoir un ticket en barrage parce que, on va y revenir, barrage catastrophique, un changement de sélectionneur et finalement ça passe, voilà, aucune victoire. Alors qu'il y avait le Kosovo, la Suisse, qui est une grosse nation la Suisse, mais il y a quand même le Kosovo et on va revenir sur cette défaite à la maison contre le Kosovo qui a précipité le départ du sélectionneur Thomasson, mais ça a été dur, ça a été compliqué pour cette nation suédoise pour arriver à cette Coupe du Monde aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada et aussi au Mexique.
Ouais, ouais, clairement, ça a été très compliqué. C'était, comme je le disais, une grosse déception. La phase de poule a été indigne du rang dont tu parlais tout à l'heure, de grandes nations quand même européennes du football. Donc bah, il fallait s'appuyer sur cette deuxième chance, qui est un peu miraculeuse, il faut bien le dire, grâce au système de la Ligue des Nations. Et de cette poule qui a été, pour le coup, remportée haut la main avec l'Estonie, l'Azerbaïdjan et la Slovaquie, je crois, dans le groupe. Là, vraiment, ils se sont promenés. Ils ont gagné 5 matchs sur 6, il me semble. Et puis, ça leur a permis d'avoir accès à ce barrage qu'ils ont, pour le coup, remporté avec beaucoup d'allant et de brio, je dirais.
Alors, il y a eu l'Ukraine d'abord, voilà, en premier match, en premier tour. Et puis, évidemment, le match contre la Pologne qui a été... Ça a été vécu quoi, comme un jour extraordinaire, ce dénouement. On a vu des vidéos des commentateurs suédois en folie, cette victoire arrachée 3-2. Parce que c'est vrai que la Pologne, c'était un gros morceau. Elle partait presque favorite, en fait, cette Pologne.
Bah, la Pologne, c'était un gros morceau, mais c'était surtout un mauvais souvenir. Parce que si la Suède a raté la dernière Coupe du Monde, c'était à cause de la Pologne, qu'elle avait déjà rencontrée en barrage et qui les avait battus. Donc il y avait un esprit de revanche. Et puis, bah oui, c'était le match contre la Pologne. Et là, se jouait à domicile, à la Strawberry Arena, justement. Il y avait une ambiance absolument incroyable. C'était le feu. Tout le monde avait envie de voir cette équipe à la Coupe du Monde avec cette génération, Gyökeres, Isaac, Bergvall. Enfin, voilà, il fallait y être. Ils ont réussi. La mission commando a été réussie. Et c'est, voilà, on est vraiment très impatients maintenant.
Regardons la composition de cette équipe alignée par Graham Potter, le sélectionneur depuis 4 matchs seulement. On y reviendra avec toi, Arnaud. Il manque un nom, et on en parlera, c'est Isaac, l'attaquant. Donc voilà, ce dispositif, défense à 5. On voit Gyökeres et Langa aussi de Newcastle, qui est passé juste après Isaac donc dans le club anglais. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements quand on voit cette équipe alignée? Alors, il y a quelques blessés, on parlait d'Isaac, mais est-ce qu'on se rapproche presque d'un 11 type pour Graham Potter quand on voit cette formation, rien que par le système?
Ouais, je pense que le système, disons que le 3-4-3, là, ou 5-4-1, enfin, on peut le découper ça comme on veut, c'est un peu le système qui va permettre au maximum de joueurs de jouer au poste où ils sont le plus à l'aise. C'est-à-dire notamment les latéraux, Gudmundsson, Svensson, Emil Holm, s'il est rétabli. Ce sont des latéraux qui sont plus à l'aise en piston qu'en pure défense à 4.
Ouais.
Et du coup, rien que pour eux, ça facilite le boulot. Et devant, on a des joueurs comme Nygren et Langa qui sont très à l'aise aussi dans le demi-espace comme ça. Au milieu, la paire sera solide. Effectivement, devant, le changement, je pense que ce sera Nygren qui sera sur le banc pour laisser la place à Isaac. C'est un peu le débat, parce que jouer dans ce système-là, ça oblige Isaac à jouer dans le demi-espace gauche. Il sait le faire, il peut le faire, il a déjà fait en club. Mais c'est voilà, un joueur qui préfère quand même évoluer en pointe, je pense. Après, dans la défense, il y aura aussi sûrement des changements, parce que Starfelt, par exemple, risque d'être forfait pour la Coupe du Monde. On le saura bientôt. Donc voilà, à voir. Mais en gros, ça serait ça. Et puis un doute sur le gardien aussi. Il y a eu...
Nordfeld qui a 36 ans.
Voilà, qui va en avoir 37 pendant la Coupe du Monde. Et il y a Johansson derrière lui et Zetterström qui étaient tous les deux blessés, qui viennent de revenir. Zetterström a pu jouer quelques matchs avant la fin de la saison. Johansson n'en a joué qu'un en 2026. Donc là, il y a doute parce que Nordfeld n'était pas forcément le numéro 1 attendu. Donc voilà.
Et on a vu beaucoup de gardiens sont succédés dans la cage, parce qu'on voit Nordfeld qui était titulaire sur ce match-là, mais ça a beaucoup tourné dans la cage. Il y a quand même un peu d'incertitude. Est-ce que voilà, on sait ce que veut ou pas Potter là-dessus? Est-ce qu'il va garder alors la préparation va être excessivement courte, encore plus pour Gyökeres qui va jouer une finale de Ligue des Champions le 30 mai, et il y aura un match amical le 1er juin pour les Suédois. Donc est-ce qu'il y a vraiment gros point d'interrogation sur ce poste?
Il y a point d'interrogation. ce sont de bons gardiens. C'est pas des gardiens de classe vraiment mondiale, disons, mais c'est vrai que Nordfeldt aura peut-être sa chance parce que finalement, est-ce que Graham Potter va pas vouloir surfer sur la vague des barrages réussis où Nordfeldt avait fait du bon et du moins bon. Il a pris un but sur une boulette, mais il a aussi sauvé pas mal d'actions. C'est la question à suivre. Est-ce que Zetterström sera suffisamment remis pour être titulaire? On verra.
La défense, on a vu Lindelof, qui est le capitaine. Il assume vraiment, l'ancien joueur de Manchester United, aujourd'hui à Aston Villa. Et il a vraiment pris l'ampleur parce que c'était quand même un joueur qui est monté très vite, très haut aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Il était passé par Benfica, puis bah, évidemment Manchester United. Il a un peu stagné, voilà. Bon, et là, il a 32 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il a, disons, la majorité de sa carrière derrière lui, mais ça reste quelqu'un de solide, ça reste quelqu'un qui a de l'expérience, qui a connu, lui, pour le coup, les expériences en compétition officielle. Donc, voilà, c'est un cadre. Pardon, c'est un cadre. Je pense qu'il fera le travail. Sauf blessure, il sera titulaire, avec Lagerbilke sur le côté droit, qui, lui, est titulaire à Braga, donc qui a fait un beau parcours, notamment en Europa League. Je pense que ces deux-là seront indéboulonnables. Après, dans l'axe, il y a Isaac Hinn qui est normalement titulaire parce que, pareil, c'est le patron.
Le joueur de l'Atalanta, ouais.
C'est ça. Il fait partie des joueurs sur lesquels il y a doute au niveau physique. Je crois qu'il est encore absent actuellement ou qu'il vient de revenir peut-être. Donc, à suivre.
C'est vraiment défensivement le principal chantier pour Graham Potter de trouver les hommes en forme, les hommes valides, parce que voilà, y a quand même eu beaucoup d'inconstance. Il y a pas que Isaac qui a manqué des matchs devant, quoi.
Non, c'est clair. Le chantier, c'est la défense, c'est clair. Après, cette défense, du coup, à 3 à 5, a aussi cet avantage-là de créer en phase défensive un surnombre normalement, puisque les deux pistons vont venir décrocher. Donc, je pense qu'il y a de quoi, tenir. Ils l'ont montré, hein. Contre la Pologne, ils ont été quand même pas mal dominés. Alors, ils ont encaissé deux buts, mais voilà, ça a tenu et puis jusqu'à cette qualification. Donc, on va voir en fonction des blessés. Ouais, ce sera un gros point d'interrogation. Ouais.
Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a aussi une jeunesse. Il y a des joueurs qui arrivent un peu aussi à maturité, mais une jeunesse. On a vu Ayari qui est au milieu de terrain, le joueur de Brighton. Il y a Bergvall aussi peut-être à Tottenham. À l'image de l'attaque qu'on annonce aussi flamboyant avec Elenga, avec Gyökeres, avec Isaac, mais ces joueurs de ballon participent à l'enthousiasme.
Ouais, tout à fait. Le milieu de terrain, c'est un peu le secteur où il y a vraiment beaucoup de talents très jeunes. Donc Bergvall et Ayari ont 21, 22 ans, ouais. Ou 20 ans. Voilà. C'est très jeune, ce sont de très bons joueurs qui jouent déjà en Première Ligue, donc à Brighton, à Tottenham. Ils ont déjà de l'expérience pour leur âge. Ils ont beaucoup joué en Suède avant de partir. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le talent. Il y a Besford Zeneli aussi, le frère de Herbert Zeneli qui jouait à Reims notamment.
Et puis, on n'oublie pas aussi Bardji à Barcelone. C'est l'after Coupe du Monde. Et on parle avec notre invité Arnaud de Nordisk Football de la Suède. L'after Coupe du Monde dédié à la Suède, et après avoir passé en revue un petit peu ce que serait cette équipe, mais on va revenir évidemment sur Isaac et Gyökeres. Intéressons-nous, Arnaud, au parcours qu'attend les Suédois à la Coupe du Monde avec un groupe très relevé, puisqu'on a Pays-Bas, Japon et Tunisie, pour cette équipe de la Suède. Et ce qu'on attend, c'est pas un groupe de la mort, mais c'est un groupe qui, sur le papier, s'annonce quand même compliqué. On va attaquer par la Tunisie le 15 juin, Pays-Bas le 20 juin, et le dernier match qui sera peut-être clé pour aller chercher une troisième, voire une deuxième place. On sait que tout se joue énormément au moindre point, au match nul, à la différence de but, les meilleurs troisièmes avec, évidemment, ce format à 48. Est-ce qu'on y va sans pression ou pas quand on voit les adversaires qui sont, ces dernières années, assez référencés quand même sur la scène mondiale ?
Sans pression, je dirais pas, mais quand même avec beaucoup d'envie, parce que c'est un groupe relevé, certes, mais homogène, je trouve. Donc les Pays-Bas sont un peu au-dessus, je pense. Mais sinon, les trois équipes de derrière sont homogènes. Donc je pense qu'il y a moyen de jouer la deuxième place. La troisième, sinon, parmi les meilleures troisièmes. Donc voilà, je suis confiant sans être trop confiant, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Encore une fois, offensivement, les armes sont là. Au milieu de terrain, les armes sont là aussi. Donc, j'ai envie d'y croire, ouais.
Sachant que, mine de rien, s'il y a cette phase de poule qui est passée, ça sera un objectif rempli et réussi pour Graham Potter.
Alors là, je ne sais pas ce qu'ils se sont fixés comme objectif, mais j'ai envie de dire la mission commando, c'était de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils ont réussi. Là, ce sera du bonus. Donc, je pense qu'ils sont sur leur lancée déjà mentalement. À mon avis, il y a beaucoup d'engouement. Le public suédois sera là, comme toujours. Il y a toujours énormément de supporters suédois qui se déplacent. D'autant plus là aux États-Unis, je pense que ce sera le cas. Je pense que... Objectif quart de finale, ça serait déjà énorme.
Deux matchs amicaux au programme pour la Suède. Le 1er juin, Norvège-Suède. Et quand je vous disais qu'il y aura la finale de Ligue des Champions pour finale de Ligue des Champions pour Gyökeres le 30 mai à Budapest avec Arsenal contre le Paris Saint-Germain. Et bien, deux jours après, Norvège-Suède, on peut être à peu près assuré que Gyökeres ne jouera pas ce match amical.
Je pense pas, non.
Je pense pas. Et il y aura une deuxième opportunité, un Suède-Grèce le 4 juin, avant de partir aux États-Unis. Et on l'a vu, premier match contre la Tunisie le 15 juin, avec des horaires. Alors, on est assez matinal en Suède, mais quand même, je crois que le premier match est à 4 heures. Il y a une heure de décalage, je crois, avec Stockholm. Il me semble, entre Paris et Stockholm.
Non, je crois pas qu'il y ait de décalage, mais par contre, oui, il y a le soleil de minuit, là, donc c'est, oui. Voilà, hein, bah, très bien.
Si on est au nord de la Suède, ça devrait le faire, voilà, 4h, 19h, et puis 1h du matin pour ce Japon-Suède à Arlington, au Texas. On sera, match au Mexique, le premier à Monterrey, puis ensuite, on restera Houston et Arlington au Texas pour les Suédois. Donc attention aussi aux conditions climatiques, parce qu'il y a beaucoup d'humidité au Texas, il fait chaud, et on sait que ça sera un paramètre assez important pour la performance sportive. Graham Potter, parlons de Graham Potter, qui est arrivé seulement 4 matchs pour lui. Il a remplacé Jøndal Tomasson, le Danois, limogé après une défaite 1-0 face au Kosovo. Et donc Graham Potter, après des expériences avortées à Chelsea et puis à West Ham. Et donc le sélectionneur, ça fait sens parce qu'en fait, on l'a peut-être oublié, il a passé près de 8 ans, je crois, à Östersunds en Suède. Donc il est très connu, il parle un petit peu suédois, mais ça reste limité à Arnaud. Mais ça fait sens finalement de voir Graham Potter à la tête de la sélection.
Ouais, tout à fait, il s'est révélé là-bas hein, en tant que coach à Östersund, comme tu le disais. Il a fait monter l'équipe de D4 dans l'élite, donc jusqu'à même l'emmener en coupe de l'UEFA, hein. Où ils ont rencontré Arsenal d'ailleurs. Voilà, c'est un parcours incroyable. Il a construit quelque chose d'incroyable à Östersund. Il a du coup une très bonne image en Suède. Et je crois que tout le monde à peu près a été ravi de le voir arriver pour voler au secours de la sélection qui était au plus bas.
Parce qu'il est arrivé en novembre. Alors il y a un premier match, il arrive et il perd en Suisse. Derrière, donc nul contre la Slovénie, un but partout. Et puis les deux matchs de barrage, parce qu'effectivement les éliminatoires, on l'a dit, la Suède a été catastrophique. Mais il y a eu ce barrage contre l'Ukraine et cette victoire 3-1. Et puis la Pologne derrière pour Graham Potter. Évidemment, c'est un entraîneur décrit au style offensif. Il avait évidemment excellé, notamment à Brighton. En sélection, on sait qu'on a moins de temps pour travailler. Il y a déjà eu ces volontés-là, parce que déjà par le schéma et puis le potentiel qu'il a de prôner un football offensif.
Alors, je pense que dans un premier temps, il a surtout insisté sur le côté humain. Je pense qu'il a voulu redonner confiance à sa sélection, à son vestiaire. Il a, par exemple, appuyé et incité les joueurs à parler des gens qui leur étaient chers pour se souvenir pourquoi ils jouaient au foot, pour qui il fallait aller à cette Coupe du Monde. Donc, c'est d'ailleurs un entraîneur qui faisait déjà ça à Östersund. Hein. Il montait des pièces de théâtre avec les joueurs. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses qui est totalement... déconnecté du foot
mais qui colle bien la business. Philosophie du pays aussi, de la Scandinavie.
Absolument, donc ça aussi ça a beaucoup plu, la presse en parlait en Suède en disant qu'ils étaient plutôt conquis eux aussi, parce que c'est quelqu'un qui a l'air très sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et du coup voilà, je pense que la priorité avant même le système de jeu, c'était de redonner confiance à cette équipe, de lui redonner envie de se battre pour le maillot. Et ça, de ce côté là je crois que c'est réussi, ouais.
C'est pas mal d'avoir quand même des échos favorables de la presse, parce qu'on parle souvent de la presse britannique, de la presse espagnole qui est énormément critique, la presse française aussi. Je veux dire que la presse scandinave, les Norvégiens, les Suédois, ça n'en rate pas une quand même aussi, hein, dès qu'il y a une contre-performance ou autre chose, hein.
C'est ça, et puis là on avait un peu peur peut-être de prendre un autre entraîneur étranger, parce que en Suède, on était quand même assez persuadé que Jøndal Tomasson, qui était le sélectionneur précédent, donc qui a complètement raté les éliminatoires, on était persuadé que c'était une épine envoyée dans le pied suédois par le voisin danois. Donc c'était, voilà, là on était tous très contents de voir que ce serait Potter quoi, qui arriverait.
Qu'on se rende compte de la rivalité, c'est plus fort Danemark-Suède ou Suède-Norvège ?
Ah, ça, je ne saurais pas dire moi, je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais je dirais peut-être le Danemark, ouais, mais surtout là, depuis Thomasson, du coup, ouais, je pense.
Pendant, il y a évidemment beaucoup d'échanges, voilà, les techniciens qui vont d'un pays à l'autre. Donc pour Graham Potter, qui vient, tu me le disais juste avant, avec un salaire équivalent. Alors c'est vrai que bon, à Chelsea et West Ham, il a été limogé, donc... Il a touché une partie de ses salaires, des salaires restants rendus, mais voilà, il est venu vraiment, ouais, presque, allez, pour amour du pays, parce que c'est un pays qui l'a touché de par son expérience à Östersunds.
Exactement, ouais, il n'a pas été trop gourmand, il va marcher à des primes au mérite, et voilà, il a dit lui-même qu'il revenait pour donner sens à ce qu'il faisait, donner sens de nouveau à son métier d'entraîneur, de sélectionneur en l'occurrence. Parce que bah, je pense que la Première Ligue l'a un peu trop secoué peut-être, et donc voilà, de ce côté-là aussi il paraît très sincère, donc on a envie de, le pays je pense entier a envie d'être derrière lui quoi.
Passons à l'attaque, Alexander Isak, Victor Gyökeres, parce que ça fait évidemment saliver tout le monde, ce sont deux gros transferts à Arsenal pour Gyökeres, à Liverpool pour Alexander Isak et sa saison tronquée, on en parle énormément, Arnaud. Alors, on n'oublie pas Elanga aussi, qui est presque dans le trio magique, mais c'est vrai que ces deux joueurs, de par leur visibilité dans des grands clubs anglais, Newcastle aussi est un grand club, mais Liverpool, Arsenal n'a pas la même perception, notamment à l'étranger. On voit Isak et Gyökeres. Alors, peut-être que Gyökeres sort d'une saison un peu plus aboutie, parce que peut-être moins de Pepa. Comment on voit vraiment ces deux attaquants au pays ? On en attend énormément, même trop ?
Trop, je sais pas, l'avenir nous le dira, mais non, c'est sûr que ce sont deux attaquants comme on en a eu peu ces dernières années, depuis Zlatan, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, ils ont pris la relève. Le duo fait vraiment saliver. Je pense qu'il peut fonctionner. Il a très bien fonctionné en Ligue des Nations, un peu moins en éliminatoire. Mais voilà, la question, ce sera surtout dans quel état ils vont arriver. Isak n'a pas beaucoup joué, donc on peut se dire qu'il sera frais. Gyökeres, en revanche, a joué énormément de matchs cette saison avec Arsenal. En plus, on sait que c'est un joueur qui se donne à fond, qui fait énormément d'efforts et de sacrifices pour le collectif, quitte à se faire un peu justement houspiller par la presse britannique. Mais voilà, je pense que ce sont deux joueurs complémentaires.
Très peu associés en sélection. Hein. Ils ont joué, on a regardé juste avant, deux matchs en barrage. La fameuse défaite contre le Kosovo qui a amené le départ de Thomasson. Une défaite lors du match aller contre la Suisse 2-0. Donc il y a vraiment pour l'instant, on a presque... Là, ces deux joueurs qui sont quand même plutôt dans leur prime, on n'a pas vu ce que ça donnait, quoi.
Non, c'est ça, on a envie de voir justement, et puis d'autant plus dans une grande compétition, dans des matchs à enjeu. Voilà, la Gyökeres a porté l'équipe clairement en barrage, triplé au premier match, but de la qualif au deuxième. Donc lui, pour le coup, il est là en patron, il a porté l'équipe, il la porte jusqu'à la Coupe du Monde. Isak va devoir maintenant se mettre à la hauteur et montrer que lui aussi, il est là et que les deux peuvent être associés et les deux peuvent emmener cette équipe loin.
Est-ce que la presse parle de potentielle querelle d'ego ou pas entre eux, ou c'est plutôt, voilà, ça reste apaisé parce que ça reste quand même, voilà, deux top attaquants européens mondiaux, hein.
Ouais, je crois pas. J'ai pas entendu parler de querelle comme ça. Je pense que là, comme tout le monde est content d'être là.
Ah, c'est vrai que bon, là, quand on voit quand même le regard de Gyökeres pour Isak, on ne sait pas quelle réponse il faisait, mais c'est vrai qu'on a envie de voir ça. Bah, imaginez quand même une Suède avec Isak, Gyökeres et Elanga de Newcastle ensemble. On rajoute Ayari derrière. Enfin, c'est vrai que ça, sur le papier, on a envie. Lindelof en défense, même si on a évidemment parlé du cas Nordfeld là-dessus. Tiens, avant de se quitter, Arnaud de Nordisk Football, un petit mot des joueurs qu'on connaît bien en France. Il y a Sébastien Nanasi de Strasbourg, d'où tu es aussi originaire, donc tu connais très bien Sébastien Nanasi, et Gudmundsson. Alors, on a vu Gudmundsson titulaire face à la Pologne. Il part vraiment pour être titulaire, en tout cas dans son couloir gauche, avec Svensson, qui était aligné à droite contre la Pologne. Il fait vraiment partie des deux titulaires, l'ancien Lillois. Hein.
Ouais, c'est ça, pour le coup, il y a de la qualité dans le couloir gauche avec Svensson et Gudmundsson. Et effectivement, Gudmundsson, maintenant, il est à Leeds, en Première Ligue. Il a été titulaire quasi toute la saison. Hein. Je crois qu'il a joué 32 ou 33 matchs. Voilà. Donc, vraiment un pilier de Leeds. Et puis Nanassi, alors lui, il a eu une gestion un peu plus compliquée à Strasbourg, mais il a répondu présent quand il a eu sa chance, et puis il a quand même été pas mal décisif. Donc avec les blessures là, de Ali et de Lundgren qui s'est fait le tendon d'Achille, je pense qu'il peut avoir sa place dans la liste.
Ça va être vraiment juste pour Nanassi, ça va être dans les derniers noms à cocher pour toi, les derniers noms que Graham Potter doit cocher.
Je pense que c'est une question de profil. Nanassi, c'est quelqu'un de très fin, très intelligent, qui n'a pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup de physique. Donc à voir si le profil convainc Potter ou pas.
Il y a des débats un peu sur la liste, vraiment, où allez, il a vraiment... Ceux qui ont fait les qualifications, enfin les barrages, partent vraiment avec un temps d'avance. On était tout proche du groupe qu'on va retrouver à la Coupe du Monde.
Encore une fois, ça dépendra beaucoup des blessures, parce qu'il y en a eu beaucoup vraiment dans la sélection. Là, donc à voir, mais oui, je pense qu'il a déjà... Allez, il y a 26 joueurs, je crois qu'il a bien 23-24 noms bien ancrés en tête, ouais.
Et dans les anciens de la Ligue 1, alors il y en a qui, parce qu'on en parlait, je suis de Reims, j'ai bien connu Jens Cajuste notamment, passé par le Napoli notamment, ces dernières années, complètement disparu des radars.
Ah, je pense que pour la sélection, là, pour la Coupe du Monde, ce sera un peu juste pour lui, justement, Cajuste. Mais non, je ne pense pas qu'il y sera. Nanassi, pour le coup, a plus de chance, ouais. Et Gudmundsson, évidemment.
Évidemment, l'ancien Lillois aujourd'hui qui est à Ipswich, Gabriel Gudmundsson, Leeds United.
C'est ça.
Évidemment, pour Gabriel Gudmundsson qui a fait plusieurs saisons et qui était très apprécié aussi au LOSC. Voilà,
oui, il a très bien terminé.
Vraiment un latéral gauche, piston gauche, qui travaillait énormément. Merci beaucoup Arnaud de
Avec
Nordisk
plaisir.
Football de nous avoir présenté de manière complète la Suède qui sera donc dans le groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie. D'ailleurs, c'est un groupe qui, si on termine un ou deux, on peut croiser le Brésil ou le Maroc. Et si ça termine troisième, potentiellement, ça peut jouer quand même l'équipe de France. Alors évidemment, vous savez, c'est tous les calculs avec ses meilleurs troisièmes. Donc, imaginez un France-Suède que l'on pourrait retrouver en phase éliminatoire.
Le plus tard possible.
Le plus tard possible. Et pourquoi pas, 94, on l'a dit, c'était une demi-finale Coupe du Monde aux États-Unis pour cette équipe suédoise. Merci beaucoup, Arnaud. Et à très vite pour l'After Coupe du Monde sur RMC.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.